Nous sommes en ligne à Jérusalem avec Richard Darmon. Bonsoir Richard.
Bonsoir et shalom.
Shalom uvracha. Vous êtes journaliste et expert en question de relations internationales. Richard, je vais vous lire un calendrier. Alors, c'est le suivant. Et c'est le calendrier de guerre qui a été présenté aux Américains d'après les informations de la presse israélienne. Joe Biden, on l'a dit pendant le journal, a envoyé son secrétaire, son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, pour s'assurer que les plans israéliens correspondaient à peu près à la vision qu'il avait des choses. Et donc, on nous dit que ça va se passer comme ça. Fin janvier, Israël devrait mettre fin à la phase de combat intensive. Les Américains avaient demandé que ça soit jusqu'à Noël, puisque bon, ils ont leur calendrier à eux. Et il faudra encore attendre fin janvier, lui ont répondu les Israéliens, sachant qu'après, il y a encore quelques semaines, après la fin des combats pour achever le retrait de Tsahal du cœur de Gaza et déployer les troupes dans les lignes de défense, certaines à l'intérieur de la bande, d'autres à l'extérieur. Et les Israéliens estiment que tout 2024 sera consacré à la lutte et à la destruction du Hamas. Est-ce que la société israélienne a les moyens de tenir des délais dans une économie de guerre? Bon, on dit que la deuxième phase n'est pas intensive, mais intensive, c'est-à-dire que ce n'est pas la guerre telle qu'on l'a connue avant le 7 octobre. Est-ce que et même les mentalités, est-ce que la société israélienne peut tenir ce calendrier?
Écoutez, il y a plusieurs aspects dans votre question, et notamment le problème des victimes aussi de la guerre qui ont battu des records hier malheureusement. Je crois que il faut se remettre en mémoire quelque chose de très très présent aujourd'hui, c'est l'aspect exceptionnel et sans précédent des massacres du 7 octobre, où comme les auditeurs le savent, c'est le jour où depuis la Shoah on a massacré le plus de juifs, et donc il y a une forte conscience dans la population israélienne que on n'a pas affaire à une guerre habituelle, une guerre géopolitique, une guerre sur des tracés de frontières, mais une guerre de la civilisation contre la barbarie et de la lumière contre les ténèbres. Et donc, c'est une guerre qui a été imposée par le Hamas à Israël, qui a dû se défendre et porter la guerre sur le territoire de l'adversaire. Et donc, si vous voulez, ces éléments qui sont des éléments de macro, si je puis dire, sont très présents dans la conscience des Israéliens. On peut aussi comprendre que on le voit d'ailleurs dans les enterrements et malheureusement qui se sont succédés, dans les discours très émouvants et en même temps déterminés des proches de ceux qui sont tombés pour la défense du pays. On sent une résilience exceptionnelle de la part de la société israélienne qui traverse d'ailleurs tous les secteurs, qui est générale. Bon, le calendrier dont vous m'avez parlé, c'est un calendrier technique. Il y a la théorie et la pratique. Il se peut que j'ai entendu des échos déjà sur ces deadlines. Le ministre de la Défense, Gallant, a dit qu'il faudrait plus de temps. Et donc, on peut faire des prévisions. Ça dépend aussi comment les combats évoluent. Il se peut que, après toutes les difficultés dans certains quartiers très, très renforcés du Hamas, il y ait aussi un écroulement en jeu de cartes. On peut assister à des renversements de tendance. Mais dans l'état actuel de la... je dirais l'état d'esprit qui prévaut majoritairement dans la société israélienne, il y a cette résilience exceptionnelle, cette détermination. Et poser une autre question sur la question économique, mais ça c'est un autre sujet, on pourra peut-être en reparler, mais il y a une profonde conscience qui est d'ailleurs restée intacte depuis 2 mois dans cet affrontement, que c'est soit eux, soit nous, c'est-à-dire que il y a une conviction qu'on a affaire à une guerre inhabituelle. Ça m'a d'ailleurs fait penser à ce slogan ou cette formule qui avait été à la la page au moment de la seconde intifada, quand Yasser Arafat avait cru, il avait planifié en voyant Tsahal se retirer du Liban en juillet 2005, un petit peu la queue entre les jambes, eh bien, il avait pensé qu'en commettant 100 attentats en 100 jours, il allait faire s'écrouler la société israélienne, qu'il y aurait... En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Les attentats en question, ces fameuses fusillades et explosions de bus et de cafétérias, des restaurants...
Ben c'était terrible parce que c'est la seconde intifada. La seconde intifada, ouais. C'était en territoire israélien. Et c'était exactement. Sur des structures civiles. C'était, quand tu prenais un bus, tu savais pas si t'allais finir le voyage, quoi.
Voilà. Il y avait à l'époque un slogan intéressant, et ça rejoint un petit peu votre question plus de manière plus sophistiquée, c'est que un des slogans qui avait été avancé, c'est qu'on retrouvait sur les voitures, sur les étiquettes, au balcon, c'est, je vais le dire en hébreu, je le traduis, c'est Aham Chazak Aval Amanigim Khalashim. Ça veut dire le peuple est fort, mais ses dirigeants sont faibles. Et donc, c'est aussi un des dilemmes de ce qui va se passer. Alors que le peuple, lui, est vraiment dans une grande détermination d'unité, de fraternité et de combativité, on espère que l'échelon politique... Bon, c'est vrai que l'échelon politique, quel qu'il soit, il ne peut pas faire autrement, parce que là, et comme il était déjà à moitié discrédité pour toutes sortes de raisons, ils sont obligés, pour sauver, entre guillemets, ce qui reste de leur peau au niveau de cet établissement, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Alors,
mais moi, je ne suis pas sûr, Richard, que cette fois-ci, je connais la frustration des Israéliens, d'ailleurs... On l'a même vécu là. Hein. Avant qu'ils rentrent au sol, les gens disaient « Je vous préviens, vous ne nous ferez pas le coup qu'on ne rentre pas. Hein. »
Vraiment.
Après la trêve, moi j'ai vu des soldats. Alors après, évidemment, on est au Proche-Orient, donc j'ai envie de dire c'est très grande gueule tout ça, mais j'ai entendu des soldats dire « Si vous nous demandez de rentrer, on ne rentre pas. On se rebelle. On reste à Gaza. »
Oui, il y a eu quelque chose comme ça, et surtout, c'est intéressant de parler de la trêve, parce que ce qu'on paye aussi avec les dernières combats très meurtriers, notamment de ce qui s'est passé hier avec avant-hier soir avec les soldats de la brigade Golani qui ont essuyé 9 victimes d'un seul coup dans une sorte d'embuscade très très sophistiquée, c'est que on paye aussi la une certaine réorganisation du Hamas pendant la dernière trêve, la semaine de la libération des otages, parce que ce qui s'est passé sur le terrain, c'était une série d'événements provoqués par le Hamas. Ils ont tué 4 soldats. Là. Ensuite, les secours sont arrivés, et puis il y a un premier explosif qui en a tué d'autres. Et une deuxième fois, c'est-à-dire que c'est un piège techniquement très au point, qui a été mis au point sans doute pendant cette trêve. Et ce que je voulais, si vous voulez, pour concrétiser un petit peu l'état d'esprit que je décris, je voudrais mentionner, ça va peut-être vous surprendre, mais la phrase qui a été citée en exergue dans un livre paru en 2012, signé par José Aboulker. Enfin, il n'est déjà plus en vie, mais ce sont ses mémoires qui sont parus. Le livre s'appelle « La victoire du 8 novembre 42 ». Le jeune leader de l'insurrection juive algérienne du 8 novembre 42, qui a permis le débarquement américain à Alger, débarquement allié sans encombre, il était minuit dans le siècle à l'époque, et c'était la première lumière qui s'allumait dans un moment très très dramatique pour tout le monde entier. Et bien donc, citant le grand résistant français Pierre Brosselette, qui allait lui-même être un martyr de la résistance française, le livre commence par cette phrase qui est tellement, tellement actuelle en Israël. Qu'est-ce que dit cette phrase de Brosselette ? Ce que les héros tombés en combattant attendent de nous, ce ne sont pas des sanglots, mais un élan. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que malgré toutes ces victimes de la guerre et le fait que si on combat encore pendant un mois et demi, voire plus, il y aura d'autres victimes, on espère.
Vous avez vu l'image des soldats des Golani qui sont dans l'Assemblée nationale du Hamas. Vous avez vu l'image, on les voit, ils sont derrière les selles. J'ai lu un grand journaliste, malheureusement j'étais en train de chercher en vous écoutant, c'est quelqu'un de la taille de Ben Caspit, vous voyez, c'est un grand journaliste, rien. Vous savez ce qu'il a écrit ? Il a écrit, vous savez qu'aujourd'hui sur cette photo, il y en a énormément qui sont morts,
ceux-là.
Vous avez vu ça ? C'est des Golani en fait.
Oui, ça a créé un émoi et à la fois une grande tristesse et en même temps un sentiment de d'être concerné, parce que les Golani c'est un emblème de l'armée d'Israël, et beaucoup d'orateurs interviewés sur les canaux israéliens ont dit qu'il fallait ce soir, huitième bougie de Hanouka, dédier l'allumage de Zot Hanouka, de Sela Hanouka, de les dédier à la mémoire de ces soldats incroyables qui, les uns après les autres, font preuve non seulement de courage, mais d'une clarté de conscience exceptionnelle, et qui le communiquent en fait au reste du peuple d'Israël.
Mais là, les officiers ont couru, les gars de 40 ans, ils ont couru, paraît-il, pour aller chercher les soldats, parce qu'ils avaient compris qu'il y avait une tentative d'enlèvement. Et c'est comme ça qu'il y a quatre officiers qui sont morts, parce que les officiers, c'est pas c'est pas comme une armée prussienne, hein, ils sont pas derrière à regarder. Ils
Absolument.
Courent devant. Une dernière question, Richard. Vous venez de dire quelque chose de très important. Vous avez dit c'est pendant la trêve qu'ils ont préparé le piège de
oui.
hier. C'est pendant l'échange de prisonniers que Sinwar a été libéré. Il y a quelque chose de terrible dans cette histoire. Chaque fois qu'on... Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, le côté répétition de l'histoire. Parce que pendant la trêve, moi, on disait d'ailleurs, tout le monde disait, ils vont se réorganiser, ils vont se... Vous voyez, regardez, concrètement, voilà, là, les 9 morts d'hier, c'est pendant la trêve.
Absolument, et donc c'est... Mais en même temps... En même temps, c'était inévitable pour sauver ces plus d'une centaine d'otages. Et donc, on retrouve, vous m'aviez interviewé les premiers jours de la guerre, on retrouve ce dilemme et cette apparente contradiction entre les deux premiers objectifs de la trêve, de la guerre, à savoir faire s'écrouler les structures politiques et militaires du Hamas, et aussi, grâce au mouvement et à la pression militaire, favoriser la libération des otages. Il est clair que le Hamas n'aurait jamais été enclin à libérer autant d'otages il y a 15 jours s'il n'y avait pas eu la présence de Tal. Et d'ailleurs, les pourparlers ont repris ces dernières 48 heures avec peut-être la possibilité que... le Hamas brandira ou proposera une autre trêve et d'éventuelles libérations d'otages que s'il est encore plus acculé qu'il ne l'est. Donc il y a une dialectique entre ces deux objectifs.
Allez, Richard, je vous remercie. On va retrouver dans un instant des gens qui se mobilisent pour donner des apparts aux populations qui du Sud qui ont été déplacées. Richard Darlan, vous qui êtes journaliste, expert en géopolitique, merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Bonsoir et de bonnes nouvelles pour tout le monde.
Mais on en profite pour se dire Hanouka Samer. Bonsoir à vous à Jérusalem, Richard. À tout de suite. Daniel Israël Siboni, bonsoir.